Donc, traiter les situations d'intimidation à travers une méthode, la méthode dite de la préoccupation partagée. Je l'ai dit ce matin, les premiers travaux sur ces questions-là, non pas sur ces questions de l'intimidation, mais pour traiter les situations d'intimidation, le premier texte d'Anatole Picasse, dont on va parler cet après-midi, ce premier texte, il date de 1975. Et ayant eu la possibilité de travailler sur les textes de Picasse dans la continuité, c'est-à-dire de son premier, 75, un premier sur le sujet de l'intimidation, jusqu'au dernier 2002, on voit très bien l'évolution de sa méthode. Et c'est vrai que c'est un travail qu'il a conduit avec des professionnels. C'est pas du tout une méthode qui est sortie de l'esprit d'un chercheur, mais c'est une collaboration entre la recherche et des enseignants. Donc on va essayer de présenter dans son détail cette méthode, étant entendu que vous avez entendu les 10 propositions du ministre ce matin. La proposition 2 consiste tout de même à constituer un palette dans lequel, que pourront adopter les établissements de façon à être labellisés, et dans cette mallette, eh bien, il y a créer un pôle ressources avec le traitement des situations. Donc on va évoquer cette méthode avec tout de même un objectif. L'objectif, c'est que cette méthode, vous ayez après la possibilité de la déployer sur les différents territoires, même si j'adore me promener dans toute la France. Je n'ai pas vocation à former tous les établissements de France et de Navarre, soyons très clairs là-dessus. Alors commençons par revenir sur certains points qu'on a peut-être un peu évoqués ce matin, mais qui mériteraient d'être approfondis ensemble. La méthode de la préoccupation partagée repose sur un certain nombre d'options, c'est-à-dire qu'il y a des choix. Il y a des partis pris théoriques qui sont pris et qu'il ne faut pas cacher, qu'il faut très clairement énoncer. D'abord, il y a cette idée, je l'ai avancée ce matin, je la reprends, que la forme de violence dont il est question ici est une violence de groupe. Et il y a, à l'intérieur des phénomènes de groupe, Nicole Catlin l'a évoqué également, il y a dans les phénomènes de groupe quelque chose qui est très très particulier, quelque chose qui est très spécifique. C'est-à-dire que les membres du groupe agissent, il y a une quantité de choses que l'on fait en groupe qu'on ne ferait pas si on était seul. Il y a même un certain nombre de choses qu'on peut en toute conscience réprouver, mais lorsqu'on est en groupe, on les fait malgré tout. C'est pour cela que, dans la prévention, vous savez, lorsqu'on veut une prévention, j'allais dire un peu simple, pour ne pas dire simpliste, du style, le harcèlement, c'est pas bien, faut pas. Mais là, les élèves, ils le savent tous très bien. Ils savent très bien que le harcèlement, c'est pas bien, que ça a des conséquences terribles, qu'aucun d'entre eux ne voudrait subir ce que subit les membres d'un groupe. Simplement, ils sont dans l'incapacité de ne pas le faire. Ils sont comme soumis à la pression du groupe. Et dans un phénomène de groupe, ça aussi c'est quelque chose sur lequel Picasse insiste dès 1975 dans son premier texte, dans un phénomène de groupe, il y a des phénomènes d'interaction. C'est-à-dire que ce que fait l'un aura des incidences sur ce que va faire l'autre. Et chacun, finalement, ils vont s'encourager les uns les autres. Ce qui fait que on assiste, et ça, toutes les victimes de harcèlement l'ont très clairement vu, l'ont très clairement dit, on assiste dans ces phénomènes à quelque chose qui relève de la surenchère. Et une espèce de montée en puissance. Ça commence par des petites choses, ça commence par un surnom, ça commence par une moquerie. Et puis ça monte en puissance, justement, à cause, en raison de cet effet de. Deuxième option, la peur est le véritable ciment du groupe. C'est pour ça que j'aime bien le terme d'intimidation, parce que je trouve qu'il rend très bien compte de la réalité du phénomène. Ils ont tous peur. Ça va même plus loin. Ils sont tous unis au sein du groupe pour faire peur à la victime, et en même temps, ils ont tous peur de l'effet de leur groupe. On rêverait tous de l'élève qui tout à coup romprait avec le harcèlement, dirait « Stop, ça va bien, on en a trop fait, on a été trop loin. » Tous les élèves, très bien ce qu'il leur adviendrait s'ils faisaient cela. Ils ont tous peur du groupe. Dire le harceleur en chef, pas peur. Harceleur en chef, d'abord il faudrait qu'il existe, le harceleur en chef, ce qui n'est pas toujours évident. Et deuxièmement, bien sûr qu'il a peur. Et on est très tranquillement en train de réinventer l'eau chaude. Parce que Montesquieu l'avait déjà dit à propos de la tyrannie. dans un système tyrannique, tout le monde a peur. Et qui est celui qui a le plus peur? C'est le tyran lui-même. Et croyez-moi, il est plus facile de faire changer le comportement d'un intimidateur que celui d'un tyran. Donc, comme ils sont tous unis par la peur, si nous, nous arrivons avec nos sanctions en rajoutant de la peur à la peur, à la peur qu'ils ont tous du groupe, si nous leur rajoutons la peur de la sanction, nous n'avancerons pas. Donc, l'objectif de cette méthode, elle est de défaire l'effet de groupe et elle est de défaire aussi la peur qui les anime. Ce qui est très intéressant dans cette méthode, on n'aura pas le temps de l'aborder cet après-midi, mais ce qui est très intéressant, moi qui observe, qui étudie tous les textes de Picasso, c'est que derrière, il y a une réflexion extrêmement approfondie sur tous les processus éducatifs. La violence du groupe n'est pas celle des individus. La peur est le véritable ciment qui va unir ces élèves dans l'intimidation. Et puis, troisième option, que l'on nous conteste parfois, mais c'est pas, on va la développer quand même, c'est cette idée selon laquelle il existe, chez ceux qui ont pris part à l'intimidation, il existe chez les intimidateurs, quelque chose en eux qui voudrait les faire sortir de l'intimidation. Il existe, ou il peut exister, chez les intimidateurs, une possibilité qu'ils veuillent sortir de l'intimidation. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai. Mais si c'est pas vrai, et même si c'est pas vrai, il faut le postuler. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que ces jeunes gens qui ont pris part à une intimidation ne l'ont pas fait consciemment, volontairement, de façon perverse et méchante, mais qu'ils l'ont fait beaucoup plus parce qu'ils étaient pris dans un processus qui leur échappait complètement. Et j'allais dire que plus vous postulerez que ces jeunes gens sont aptes à sortir de l'intimidation, plus vous les aiderez à en sortir. Et nous renouons ici, et là encore, quand je vous dis qu'on renoue avec les principes fondateurs de l'éducation, nous renouons avec quelque chose que tous les enseignants connaissent très bien. Lorsqu'en tant qu'enseignant, vous avez un élève qui ne comprend pas ou rien, qu'est-ce que vous lui dites? Le pauvre petit, t'es tellement bête que tu ne comprendras jamais rien. Vous faites ça, vous avez peu de chances de le faire progresser. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous postulez chez lui, en lui, la possibilité qu'il comprenne. Et en anticipant sur cette possibilité qu'il comprenne, vous l'aidez à comprendre. L'élève intimidateur, si vous le prenez pour un futur délinquant, si vous lui dites, mon petit, ce que tu fais c'est du harcèlement, dans 15 ans tu seras en prison, tu auras commis 2 crimes, voire 3, vous pensez sérieusement que vous avez une chance de le faire sortir? Il faut postuler chez lui la possibilité qu'il veuille en sortir. Et en anticipant sur cette possibilité, vous le ferez progresser. Vous me suivez? C'est essentiel. Et là encore, on renoue avec, là encore, les principes les plus fondateurs de l'éducation. Le philosophe Alain l'avait déjà observé. Il mentionnait même que ça marchait aussi dans les relations amoureuses. Je prête à la femme que j'aime des vertus qu'elle n'a point, elle les aura. Ça marche aussi pour le mari. Et il ajoutait après, plus ou moins, mais il faut donner d'abord. Bien sûr, nous avons affaire à de l'humain. Nous avons affaire non pas à des machines, nous avons affaire à des êtres vivants, donc susceptibles de progrès, particulièrement des jeunes. Donc nous voulons d'eux des progrès. Donc toute démarche relevant du soupçon, toute démarche relevant de la suspicion, commencez par accueillir l'intimidateur en lui disant « Alors, c'est pourquoi tu es là ?» Jamais vous le ferez. Au contraire, il trouvera tous les moyens de s'enfermer dans sa... dans sa posture. Et vous allez voir qu'une des astuces, une des forces de la méthode, c'est bien justement de déstabiliser les intimidateurs, de leur présenter quelque chose auquel ils ne s'attendent pas du tout. Moralisation, remontrance, appel à l'empathie sont sans aucun effet. C'est toujours plaisir à celui qui les prononce, mais ça n'a pas vraiment d'effet. Et la véritable posture, la juste posture que nous devons adopter, c'est celle du diplomate. Je vais m'arrêter sur cette posture du diplomate. Enfin, je vais m'arrêter sur les deux derniers aspects. Bon, ça c'est une flèche. Non, je vais m'arrêter sur la question du diplomate. L'attitude que les intervenants vont avoir avec les face aux intimidateurs est une posture qui relève davantage de la diplomatie. Je m'explique. Un diplomate est toujours armé, a toujours avec lui deux atouts. D'une part, son exquise courtoisie. Le diplomate parle avec tout le monde. Les diplomates ne rompent jamais le rapport. Le vrai diplomate ne brise jamais le contact. Il s'efforce de toujours. Et les diplomates, on ne fait pas de la diplomatie avec des gens bien sous tout rapport. On fait de la diplomatie avec des tyrans. On fait de la diplomatie avec des personnages qui ne sont pas recommandables du tout. Mais le diplomate, lui, continue d'être courtois. Eh bien, dans les entretiens que vous devrez avoir avec les intimidateurs, il faut avoir cette posture extrêmement courtoise. Alors, ils s'attendent à se faire engueuler, passez-moi l'expression. Pas du tout. Ils sont accueillis par quelqu'un qui est souriant, qui est même très accueillant. Bonjour, merci d'être venu me voir, je suis content de vous rencontrer. Je voulais vous parler de telle situation. Sauf que le diplomate, il est courtois, il est vrai, mais il est obstiné. Il est opiniâtre. Il lâche rien. Il continuera à aller pour parler les négociations jusqu'à ce qu'une paix soit trouvée, jusqu'à ce qu'un accord soit conclu. Eh bien, l'intervenant type Picasse, il a d'un côté pour lui sa courtoisie, son affabilité. De l'autre, il a cette obstination. Je ne lâche rien. Et si vous n'avez pas cette espèce d'alliance entre d'un côté une courtoisie et de l'autre une fermeté, ça ne marchera pas. On me pose souvent la question, puisque les enquêtes qui ont été réalisées montrent que c'est de l'ordre de 80% des situations qui sont réglées. Ce chiffre, on le trouve dans les enquêtes internationales et nous l'avons confirmé dans partout où on a installé cette méthode. On s'est rendu compte que la méthode, elle fonctionnait dans 8 cas sur 10. Eh bien, quels sont les 2 cas sur 10 dans lesquels ça ne marche pas? Eh bien, en tout cas, je ne sais pas si la réponse à cette question, mais je sais qu'il y a un cas dans lequel ça ne marche pas, c'est lorsque la posture qui est adoptée par l'intervenant. Ça nécessite une formation, ça nécessite un changement de paradigme, un changement d'attitude, parce que ça n'est pas la posture que nous avons naturellement en tant qu'enseignant, en tant que CPE, en tant que chef d'établissement. Une posture tout à fait. Donc, on retient de l'attitude du diplomate sa courtoisie, son obstination, sa résolution dans la volonté de régler l'affaire. Et puis, troisièmement, on retient aussi de la diplomatie quelque chose d'absolument essentiel. L'histoire nous a maintes fois montré qu'à chaque fois qu'une situation de conflit était résolue par l'humiliation, la défaite sur toute la ligne, le rabaissement de l'un des protagonistes, c'était porteur pour l'avenir de dangers encore plus graves. Eh bien, il faut retenir aussi du diplomate que il faut retenir de la diplomatie que d'une situation d'intimidation, personne ne doit en sortir la tête basse. Personne ne doit en sortir humilié, rabaissé, vaincu. Il faut que chacun en sorte par le haut, et c'est ce que cette méthode s'efforce de. Voilà pour les principales options théoriques à la base de cette méthode, tout cela étant complémentaire de ce que nous avons vu ce matin. Que faut-il pour que cette méthode réussisse? Quelles sont les conditions de réussite de la méthode? Et sous-entendu, qu'est-ce qui fait que si ces conditions ne sont pas réunies, nous aurons peut-être affaire à un échec? Eh bien, il faut d'une part, et ça, je crois que c'est la base, il faut la constitution d'une équipe dédiée au traitement des situations. La constitution de ce que nous avons appelé, lorsqu'on a commencé dans les Hauts-de-Seine en 2014, la constitution de ce qu'on appelle une équipe ressource. C'est-à-dire qu'il faut, et pourquoi pas, se lancer un défi de ce type. Après tout, lorsque nous avons commencé avec Imenaga, avec Philippe Lotz, avec Jean-Pierre Félix, en 2013-2014, à lancer le plan de formation dans les Hauts-de-Seine, nous sommes dit, dans 5 ans, il faudrait finalement que la méthode soit reconnue et développée au plan national. Eh bien, lançons-nous un autre défi et disons-nous qu'il faudrait que dans 5 ans, il y ait dans la plus grande partie des établissements une équipe ressource, c'est-à-dire une équipe spécialement dédiée au traitement des situations. Alors, des équipes ressources, des fois il y a des, dans des établissements dans lesquels ils sont 3 ou 4. Moi, quand j'ai commencé, on était 2, hein, puis 3. Mais ils sont des fois plus. Mais l'idée qu'il y ait dans chaque établissement, et cela de façon intercatégorielle, cessons de penser que le traitement du harcèlement, c'est strictement l'affaire de la vie scolaire, même si c'est aussi l'affaire de la vie scolaire, ça n'est pas seulement l'affaire de la vie scolaire, qu'il y ait dans chaque établissement une équipe spécialement dédiée aux situations de harcèlement, qui soit spécifiquement formée et qui soit apte à traiter les situations qui se présentent. Ça, c'est l'une des conditions indispensables. On ne peut pas faire de la préoccupation partagée tout seul. Il faut une équipe. Et il faut que cette équipe soit connue. Il faut que cette équipe soit connue. Qu'elle soit connue de la salle des professeurs. C'est-à-dire, il faut que les professeurs sachent que s'ils ont une situation qui se présente dans leur classe, ils peuvent la signaler à l'équipe ressources. Et ce qui veut dire aussi qu'il faut faire passer ce message auprès des professeurs. N'attendons pas encore une fois que ça devienne du harcèlement. Vous avez dans votre classe entendu un surnom, vous avez fait un exercice un jour et vous vous êtes aperçu qu'il y a un élève qui se retrouvait tout seul, vous avez entendu une moquerie, vous avez vu quelque chose dans la cour, signalez-le à l'équipe. Encore une fois, n'attendons pas que ça devienne du harcèlement, c'est en traitant les choses à leur commencement qu'on évitera de faire pourrir des situations qu'après on ne sait plus régler. Il faut que l'équipe soit connue auprès des élèves de l'établissement. Alors, je ne sais pas sous quelle forme. Je sais en tout cas que dans les établissements, il y a eu des informations tout à fait différentes. Dans certains collèges ou lycées, l'équipe ressources s'est présentée devant les classes en début d'année. Peu importe, ou que ça peut être affiché quelque part. Il y a, et puis cessons de parler du harcèlement. Il y a un garçon, une fille qui ne se sent pas bien, il y a quelqu'un qui est mis à l'écart, dont on se moque, à qui on donne un surnom, vous le signalez. Il faut aussi que les familles soient informées de la réalité, de la constitution de cette équipe. Et qu'ils sachent que, oui, on prend très au sérieux. Voyez que tout de même, c'est une sacrée victoire que qu'il va y avoir bientôt des établissements labellisés. Zéro harcèlement. Donc il faut aussi que les familles soient informées, soient alertées, et il va falloir un dialogue avec les familles, en leur expliquant, voilà, on a une méthode. Ne montez pas tout de suite dans les tours pour nous demander des sanctions et l'exclusion au minimum de celui qui a pris part à l'intimidation. On a une méthode, vous nous laissez un petit peu de temps, 15 jours moi me suffisent pour traiter une situation. On y reviendra sur la question de la tempête. Donc, vous voyez, une équipe qui est vraiment active, connue de tous les élèves et de tous les acteurs, des professeurs et des familles des élèves. Deuxièmement, il faut évidemment, et sans lequel c'est la deuxième condition aussi indispensable que la première, il faut l'engagement ferme du chef d'établissement sans lequel rien n'est possible. Et cet engagement du chef d'établissement, on peut le décliner sous 3 aspects. Il faut que le chef d'établissement, d'abord, assoie la légitimité de l'équipe au sein de l'établissement. On n'adopte pas cette méthode en douce, on le fait de façon très claire. Dans les collèges et les lycées, ce sera débattu en CESC et présenté éventuellement au conseil d'administration. C'est communiquer, c'est informer, tout cela est débattu. On ne fait pas ça dans le dos des familles ou des élèves. Donc, asseoir la légitimité de l'équipe, assurer la liaison avec les parents d'élèves, avec les parents d'élèves de la victime et avec les parents d'élèves des harceleurs, médiateurs, ceux qui ont pris part. Avec les familles des victimes, alors ça pourra être, moi je l'ai fait souvent, hein, ça pourrait être aussi un membre de l'équipe qui va faire ce travail, mais c'est un travail de fond, parce qu'il faut, vous savez, le harcèlement c'est un piège dans lequel tout le monde tombe, les élèves, les intimidateurs, les témoins, mais les familles aussi vont tomber dans le piège. Et les familles, mais mettons-nous à la place des familles pour qui la révélation d'une situation de harcèlement est un vrai drame, sont très vite dans la surenchère, de la demande de sanctions. Moi, je conseille de dire aux familles, parce que je l'ai dit, je crois, ce matin, moi, je ne suis pas... j'ai rien contre les sanctions. Hein. Si elles doivent tomber, ça ne me pose aucun souci. Simplement, j'ai montré ce matin qu'elles n'étaient pas efficaces. Donc, expliquons aux familles. Moi, ce que j'aimais bien dire aux familles, c'était le message suivant. Voilà, une situation d'intimidation, ça a mis des semaines avant de se constituer, des fois des mois, des fois des années. Laissez-nous un tout petit peu de temps pour la résoudre. On a une méthode, qui a fait ses preuves, elle a fait ses preuves à l'étranger, elle a fait ses preuves dans plusieurs établissements français. Vous nous laissez faire, je vous donne 15 jours. On se donne 15 jours. Pendant ces 15 jours, soyez attentifs à comment les choses évoluent pour votre enfant. Nous, ce qu'on veut, c'est que la situation s'arrête et on en reparle dans 2 semaines. Une situation que nous n'avons pas été en mesure de traiter en l'espace de 15 jours, c'est soit que nous nous sommes trompés dans la méthode, soit qu'il y avait du plus lourd derrière. Mais les situations, on les traite en 15 jours. Liaison avec les parents d'élèves des victimes, il va falloir beaucoup expliquer, mais vous savez, là encore, puisqu'on a un recul maintenant, on a un recul de plus de 4 ans maintenant sur certains établissements en France, la méthode, elle se juge aussi sur la longue durée. Parce que les familles vont très vite voir l'efficacité de la méthode, ils vont très vite voir qu'en faisant appel à ce type de démarche, on résout le problème. Donc, progressivement, cela rentrera dans les mœurs, et les familles se diront, oui, effectivement, on va leur faire confiance. De toute façon, question de la confiance, je vais vous en dire un mot tout à l'heure, elle est quand même au cœur de notre dispositif. Et puis, prendre le relais quand la situation l'exige, parce que, alors c'est vrai que le chef d'établissement va être, et c'est une originalité du protocole que nous proposons, le chef d'établissement être un peu en retrait dans un premier temps. C'est l'équipe qui traitera les situations. Ce n'est pas le chef d'établissement qui traitera les situations d'intimidation. En revanche, si l'équipe estime nécessaire si ça ne marche pas, effectivement, à ce moment-là, le chef d'établissement, qui seul est détenteur du pouvoir de sanction, pourra prononcer les sanctions. Les membres de l'équipe, préoccupation partagée, évidemment, n'ont aucun pouvoir de sanction. Sûr que s'il y a des professionnels qui sont les champions du monde de la distribution d'or de golf, peut-être pas les mettre dans l'équipe Picasso, hein. Personne ne les croira. Mais c'est le chef d'établissement qui aura à sanctionner si cela s'avère nécessaire. Oui, il y a un cercle vertueux de la confiance au cœur du processus préoccupation partagée. C'est-à-dire que le chef d'établissement doit faire confiance à son équipe pour régler le problème. Il se met un peu en retrait pour ce qui est du traitement de ces situations. Ce n'est pas lui qui traite les situations, pas au départ. Confiance que l'on va demander aux familles pour régler les situations d'intimidation. On va dire aux familles, écoutez, laissez-nous un peu de temps, laissez-nous faire notre travail, nous avons une méthode qui devrait être efficace. Et puis, la confiance que le praticien, c'est-à-dire celui qui va mener les entretiens avec les intimidateurs, la confiance que on va faire aux élèves pour qu'ils trouvent eux-mêmes une situation au problème qu'ils ont créé. Vous allez voir que cette confiance, on le verra plus clairement par la suite. Alors, nous en venons maintenant au détail de la méthode. Et nous allons regarder ensemble la méthode, en tout cas telle que je l'ai adaptée au contexte français. J'ai un peu modifié les choses en rajoutant une phase et en mettant une entre parenthèses, mais voilà en tout cas le dispositif que nous avons déployé dans maintenant un très grand nombre d'établissements français. Donc, 4 étapes principales. D'abord, une première phase de soutien, de travail avec la cible, et qui alors, il ne faut pas se laisser tromper par le 1, 2, 3, 4, ça n'est pas chronologique. Je veux dire que le soutien de la cible, il doit être constant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui accompagne la cible la cible au quotidien. Cette phase-là, moi, je l'ai vraiment ajoutée et renforcée par rapport au dispositif PICAS, et je suis en train de le renforcer encore plus. J'avais un peu le sentiment qu'il y avait dans la méthode de la préoccupation partagée dans sa version originale quelque chose qui manquait sur le travail avec les cibles, sur le travail avec les victimes. Je m'étais bien sûr rendu compte, comme tous ceux qui ont utilisé cette méthode, que la méthode de la préoccupation partagée est très efficace pour éteindre le feu, j'allais dire, pour arrêter un phénomène d'intimidation. Elle me paraissait un peu incomplète pour ce qui est du travail avec les victimes. Que va advenir une victime qui a déjà été fragilisée? Ça a été très clairement montré ce matin par le docteur Kathleen, qui montrait comment, finalement, quelqu'un qui a été fragilisé à un certain moment, ça va peut-être s'arrêter, mais il va offrir le flanc après pour de nouvelles intimidations. Donc il me semblait qu'il y a quelque chose qui manquait, c'est pour ça que je me suis rapproché de Marie Cartier, qui était enseignante au départ et qui a bifurqué, évolué vers la psychothérapie et qui travaille en soutien aux victimes, et maintenant nous développons des dispositifs communs. Que faire avec les intimidateurs et que faire aussi avec les victimes? C'est un travail que nous développons maintenant dans certaines académies. Phase 1, le soutien de la cible, on va les décliner toutes les quatre tout à l'heure de façon plus précise. La phase 2, qui est sans doute celle qui nécessite une formation très spécifique, cette phase essentielle de la rencontre avec les intimidateurs au cours de laquelle nous allons travailler avec les auteurs en entretien individuel. Et ça, c'est le caractère individuel des entretiens est absolument essentiel. Le harcèlement est un phénomène de groupe. Le traitement sera individuel. Notre objectif, il est de défaire le rôle négatif du groupe. On reviendra vers la cible ensuite, et puis il faudra des phases de suivi. Phase 1, le soutien de la cible. Je l'ai dit ce matin, je le répète, il y a plusieurs choses dont souffre actuellement dans le système. Dans le système français, dans le système actuel tel qu'il est pensé, il y a une chose dont souffrent les victimes, c'est de ne pas être accueilli. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas, lorsque quelqu'un vient nous signaler une situation de difficulté, de souffrance, de malaise, on ne peut pas lui donner comme réponse « T'es sûr que c'est bien du harcèlement ?» On ne peut pas. On doit. Texte essentiel. Texte de Paul Ricoeur sur la justice et son échec, le dit avec clarté, il ne le dit pas seulement, pas à propos de la justice scolaire, il le dit à propos de la justice pénale. La première chose dont une victime a besoin, une victime aurait besoin de deux choses, elle a besoin de la reconnaissance de l'institution. Donc on ne peut pas se permettre de contester ce qu'elle nous dit. On ne doit pas. On fera notre travail après. Hein. D'abord, cette victime, elle doit être accueillie. Et la deuxième chose, toujours selon Ricoeur, qu'une victime a besoin ou aurait besoin, c'est de la réparation. Eh bien, la méthode de la préoccupation partagée, en tout cas dans la version qu'on a développée, elle s'efforce de faire les deux choses. Un, soutien de l'institution, la reconnaissance de l'institution, et deuxièmement, placer les élèves qui ont pris part à l'intimidation dans un processus. Donc, que notre soutien ne soit pas à moitié, à demi, que notre soutien ne soit pas du bout des lèvres. L'assurer donc du soutien indéfectible de l'établissement, nous sommes avec lui, nous serons avec lui et nous serons avec lui ou avec elle autant de temps que la situation le nécessitera. Mais croyez-moi, là encore, pour avoir écouté pendant les 10 premières années sur lesquelles j'ai travaillé sur le sujet pour écouter beaucoup de victimes, je peux vous assurer que des fausses promesses, les victimes, elles en ont entendu quantité. Oh, tu vas voir ce que tu veux voir, et elles n'ont rien vu du tout. Et non, des fois, l'aggravation de leur situation. On va la sécuriser. Et comment la sécuriser mieux qu'en disant que nous avons très bien conscience, que nous savons très bien que le processus de représailles existe. Et justement, le fait que cette méthode soit non blâmante, ça, moi je m'en suis aperçu, ça a pour effet de sécuriser les victimes. Ce que redoutent les victimes par-dessus tout, c'est un processus de sanction qui immanquablement va leur retomber sur la tête. Et de toute façon, ils se diront, oulalalala, l'école va mettre en route un certain nombre de choses et ça aura des conséquences négatives pour moi. Donc la victime, elle est en situation de crainte, elle a peur de ses intimidations, elle a peur des réactions de l'école, elle a peur de sa famille, parce qu'elle ne va pas volontairement en parler à sa famille, il y a un caractère tout à fait honteux. Il est donc absolument essentiel que dans l'établissement, il y ait une personne ressource qui soit vraiment là pour l'écouter. Et le dispositif qu'on a mis en place dans les Hauts-de-Seine, on déploie maintenant dans d'autres académies et départements, c'est aussi, on essaye de travailler de plus en plus maintenant avec un pôle ressource autour des intimidateurs qui va utiliser la préoccupation partagée et une formation plus spécifique en direction des victimes qui est vraiment permis. Et assistance sociaux, CPE aussi ont un rôle absolument décisif de ce côté-là pour qu'il y ait ce soutien de la, de la victime, qui ne soit pas un soutien du bout de l'œil. Et l'informer rapidement de ce qu'on va faire. On ne va pas lui faire un cours sur la méthode de la préoccupation partagée, mais on va lui expliquer en gros le processus qui est le nôtre et qui sera non blâmant. Et ça, je pense qu'il faut vraiment lui le dire. On ne va pas sanctionner tout de suite, rassure-toi, ça n'est pas notre objectif. Mais cette phase-là n'est pas prise en charge par celui qui va conduire les entretiens avec les intimidateurs. Alors vous allez me dire, c'est moi qui vais vous dire, quand on n'a pas beaucoup de monde, ben on est bien obligé de faire avec, hein. Mais dans l'absolu, moi je préfère que celui qui va mener les entretiens avec les intimidateurs, c'est un rôle que j'ai beaucoup joué pendant une époque, eh bien je préfère que ce soit quelqu'un qui arrive face à la situation, l'esprit vide, libre. Hein. Moi je n'ai besoin de savoir qu'une seule chose, hein. Je veux pas d'enquête, hein. Les faits m'intéressent très peu. Il y a une seule chose qui m'intéresse, il y a un garçon, une fille de l'établissement qui ne va pas bien, c'est tout. Je n'ai besoin que de cela pour commencer les entretiens. Je veux dire un mot de la temporalité. La question de la méthode de la préoccupation partagée a un rapport avec le temps. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait se donner 15 jours. Vous voyez, il faut se donner 15 jours et on va se dire, c'est vraiment un délai qu'on va donner à la victime, qu'on va donner à sa famille, en disant voilà, 15 jours, c'est que si une situation se déclenche la veille des vacances, vous soutenez la victime, bien sûr, la phase 1, vous la faites, les entretiens avec les intimidateurs, vous les renvoyez à la, rentrée. Il nous faut vraiment 15 jours devant soi pour regarder comment les choses vont évoluer. Donc, première idée, on se donne un délai. Et un délai, tout ce qui est de plus raisonnable, ce qui va être tout à fait intelligible par les familles. 15 jours, bon, c'est jouable. Deuxième point, on le verra tout à l'heure, parce que c'est la brièveté de l'entretien. Je reviendrai. L'autre point sur lequel la question de la temporalité est intéressante, c'est la rapidité. Une situation est portée à votre connaissance demain matin, demain 10h, ou plus tard midi, vous aurez déjà commencé à rencontrer les intimidateurs. Je sais qu'il y a des circonstances dans lesquelles la méthode ne marche pas, c'est lorsque on a pris trop de temps, on a dit « Ah oui, ben celui-là, ben on ne peut pas le rencontrer aujourd'hui parce qu'il n'est pas là, on ne peut pas rencontrer ceci, etc. » Et on a renvoyé. Non. La situation est portée à votre connaissance demain matin, il y aura déjà 3 intimidateurs qui ont été rencontrés. Ça aura, du côté des élèves, un effet de sidération. Ils vont dire « Oula, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui leur prend ?» Vraiment, qu'on intervienne tout de suite. Donc, un délai qui n'excède pas 15 jours, 3 semaines, allez, 3 semaines parce que c'est vous, mais je, non. Et une rapidité de prise en charge. Et puis la brièveté des entretiens, bien sûr, on va y venir. Voilà la phase 1. Mais quand je dis phase 1, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Soutien de la cible, il faut qu'il soit omniprésent, qu'il soit continu. Phase 2. La phase 2, c'est la rencontre, ce sont des rencontres individuelles avec les intimidateurs, présumés. Au cours de la phase 1, l'élève vous aura dit, on lui aura posé la question, on lui aura dit, mais alors, qu'est-ce qui t'embête? Dis-nous. Il va nous donner le nom de 3, 4, 5, 6, 7 personnes, je ne sais pas, ce sont eux que l'on va rencontrer en entretien individuel. Si jamais il ne veut pas nous donner de nom, ça ira. On demandera au professeur principal de la classe et on mènera ces entretiens. Alors on a, avec l'aide de Canopé, reconstitué un petit film là qui est sur qui va présenter la rencontre la rencontre avec les intimidateurs. Et alors bien sûr, moi je joue mon rôle, mais la jeune fille qui est en face de moi, c'est une comédienne, hein, c'est pas elle. Mais la situation est tout ce qui est de plus réel, c'est moi qui l'ai traitée et je me suis servi pour écrire le film des répliques, presque celles qui ont été prononcées. Alors on va regarder la vidéo et puis on en discute, mais il faut que je mette le micro.
Merci d'être passé me voir. Je voulais vous parler d'une élève de votre classe. C'est Camille. Je crois qu'elle passe un mauvais moment tout de suite. Je suis préoccupé à son sujet. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de cette situation?
Je comprends pas pourquoi on m'a convoqué. Moi, j'ai rien fait, enfin, pas plus que les autres.
Non, mais rassurez-vous, moi, je suis pas là pour vous juger, ni vous punir. Il y aura pas de sanctions. C'est pas mon rôle. Soyez très tranquille. Point de vue. Non, je veux simplement essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe pour Camille, parce que sa situation m'inquiète, me préoccupe, si vous pouvez m'en dire.
C'est vrai qu'elle n'a pas l'air très bien. Bah, dans la classe, personne ne lui parle et des fois, on se moque un peu d'elle.
Donc, vous confirmez que les choses se passent plutôt mal pour elle actuellement?
C'est vrai que c'est très
facile. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'elle ait une situation peut-être plus facile au lycée. Il y a des choses auxquelles vous pensez?
C'est pas facile parce que je crois qu'au collège, c'était encore pire. Du coup, elle a l'impression qu'on va lui parler ou essayer de l'intégrer, c'est pour se moquer d'elle, toujours sur la défensive.
Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle se sente plus en confiance, moins sur la défensive, comme vous dites?
Arrêter de se moquer d'elle. Il y a des choses... Pas forcément méchant, mais devrait faire.
Donc j'imagine que ces réflexions qui sont faites contre elle, elles viennent de plusieurs élèves de la classe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces réflexions s'arrêtent?
Parler entre nous.
Vous seriez d'accord pour en parler aux autres élèves? Et faire en sorte que ça cesse finalement. Ah ben, c'est une excellente idée. Bien. Écoutez, je suis très content de l'entretien qu'on a eu. Je vais certainement être amené à rencontrer d'autres élèves. Et puis, on se reverra après pour voir si les choses ont évolué pour Camille. Merci. Merci beaucoup.
Voilà. Donc, un entretien qui est bref. Et ça, c'est la condition de réussite. L'entretien, ici, il dure 2 minutes 30. Ça ne doit pas excéder 5 minutes, c'est déjà. Les élèves sont habitués à des entretiens longs, à des entretiens qui n'en finissent pas, certains bureaux. Et ils possèdent toutes les ressources pour échapper, ils ont tous les moyens d'échapper à... ils savent très bien esquiver ce type d'entretien. Là, l'entretien est étonnamment bref. 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes... moi, je les faisais pendant la récréation Deux étapes très clairement identifiées. Première étape, la recherche de la préoccupation. Bonjour, merci de venir me voir. Je suis heureux de vous rencontrer. Je suis professeur dans cet établissement et je fais partie d'une équipe qui s'occupe des élèves qui ne vont pas très bien. Et justement, je suis inquiet pour un garçon, une fille de votre classe. C'est un tel. Il ne va pas bien. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Jamais, un seul instant, je n'évoque les faits. Jamais. Tu connais les faits. Des fois, ils sont monstrueux. Dans l'histoire, en l'occurrence, de la vidéo, ce que ce groupe de filles avait, comme rumeur, avait fait courir sur la dénommée Camille, enfin, qu'on a appelé Camille dans le clip, c'était terrible. C'était ignoble. Jamais je n'évoque les faits. Je n'évoque que la préoccupation qui est la mienne pour la victime. On n'aura pas le temps d'aborder ce point davantage, mais vous savez, la méthode marche beaucoup. Il n'y a pas que la méthode. Le harcèlement est un processus mimétique. Pourquoi se moque-t-on de quelqu'un? Parce que tout le monde le fait. Pourquoi répète-t-on un surnom? Parce que tout le monde le répète. Donc il y a une puissance du mimétisme dans l'intimidation. Eh bien là, nous inversons le mimétisme. Je leur propose un modèle d'imitation radicalement différent. Mon inquiétude. Je suis inquiet pour ce garçon, cette fille. Il ne va pas bien. Je me fais du souci. On est plusieurs dans l'établissement à être inquiets pour lui. Il va vraiment pas bien. Et on martèle cela dans toute la première partie de l'entretien. Comme si je les amenais à m'imiter, à me rejoindre sur l'inquiétude qui est là, qui est la mienne. Alors, bien sûr, vous l'avez bien vu, ça ne va pas tout de suite de soi. Il y a des élèves qui vont vous dire, avec la plume parfaite des mauvaises foi, je le connais pas, mais il va très bien. Bon, vous imaginez. Et là, avec la même courtoisie, faut des fois un peu se forcer, avec la même courtoisie qu'on a commencé l'entretien, on le termine en disant, vous n'avez rien observé. Eh bien écoutez, on est mardi, vous repassez me voir vendredi, tenez. Et vendredi, je recommence. Ici, il n'a toujours rien vu. C'est le mardi d'après. Ils se lasseront avant nous. Surtout qu'on va faire ça avec chacun de ceux qui ont préparé de l'intimidation. Et on va s'apercevoir que dès qu'il y en a un qui lâche, tous les autres, comme vous savez, les dominos qui se tombent les uns derrière les autres, dès qu'il y en a un qui a lâché, les autres vont lâcher. Processus mimétique qui marche aussi dans ce sens. Je n'ai jamais vu l'intimidateur chevronné qui reste le dernier à persécuter. Celui-là, on ne l'a jamais rencontré pour une raison bien simple. C'est pas très confortable d'être le dernier à persécuter. Ils le font parce que tous les autres. Tant que l'élève n'a pas reconnu que l'autre n'allait pas bien, je mets fin à l'entretien et je ne passe pas à la phase 2. Mais sitôt qu'il a reconnu, même du bout des lèvres, « Ouais, c'est vrai, va peut-être pas très bien. » Alors, je passe à la phase 2. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et qu'est-ce que vous pourriez faire vous-même pour que ça se passe mieux pour lui ou pour elle? Là encore, on a fait court, on a fait bref dans le film, mais des élèves qui vont vous dire pas à moi de faire quelque chose, je vais se débrouiller tout seul, pas mon problème. Avec la même courtoisie qu'on a commencé l'entretien, on y met fin en disant bien, écoutez, je vous demande d'y réfléchir et vous repassez me voir vendredi. Enfin, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que dans la méthode de la préoccupation partagée, tout est sympathique, souriant, sauf une chose, c'est qu'on ne leur laisse absolument pas la possibilité de ne pas venir. Donc ce n'est pas un rendez-vous qu'on leur donne, c'est que vendredi, il y aura quelqu'un devant la porte, ou moi, qui viendra leur dire, venez avec moi. Donc ça, si vous vous amusez à donner des rendez-vous, ce jour-là, comme par hasard, ils ne seront pas là, vous faites passer un papier, ils l'auront perdu. Non, là... On a la chance d'avoir des assistants d'éducation qui peuvent nous faciliter le travail dans les établissements, français. Qu'il a reconnu que l'intimidateur a reconnu que ça n'allait pas très bien pour l'autre, eh bien, on peut passer à la seconde phase, qui est la recherche de suggestions. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire vous-même pour que ça se passe mieux pour lui? Et ce qui est très étonnant, c'est que et les suggestions, moi ça m'a surpris quand j'ai commencé à traiter travailler avec cette méthode, je m'en souviens très bien. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que les suggestions viennent très vite. Et elles sont, alors chez les petits, elles sont immédiates et elles sont d'une fraîcheur réjouissante. Hein. Je vais lui faire un dessin, je vais l'aider à faire ses devoirs, enfin, c'est merveilleux. Mais les suggestions arrivent de la même manière. On va arrêter le surnom, on va arrêter les moqueries, on va en parler entre eux. Et sitôt qu'une suggestion a été faite, eh bien, on félicite, bien sûr. On félicite et on les note Et puis, moi, en fin d'entretien, j'aime bien leur le faire rappeler. Leur dire, donc, la suggestion que vous faites, c'est celle-ci. Et lors de l'entretien qui va suivre, je reviendrai à la charge en disant, voilà, je continue à être inquiet pour tel élève de l'établissement. La dernière fois, vous m'aviez fait des suggestions. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de la suggestion que vous avez faite? Je ne me souviens pas. Je lui les rappelle, je l'ai noté. Et ça a été mis en pratique, ça a marché, ça a bien fonctionné. Vous aviez dit que vous en parleriez aux autres. Vous l'avez fait? Oh non, je n'ai pas eu le temps. Oh, vous allez le faire tout de suite, là, hein? D'accord, on se revoit demain, hein? OK? Et prends à chaque fois. On les prend à chaque fois.